Vous écoutez, on lit pour vous.
La condamnation d'une mère. Un texte de Sarah Treleaven, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Un après-midi d'août 2018, la professeure d'immunologie Carola Vinuesa se trouvait dans son bureau de l'école de recherche médicale John Curtin à Canberra, en Australie, quand elle a reçu un appel qui allait changer sa vie et en sauver une autre, en la plongeant dans l'univers complexe de la génétique. David Wallace, ancien étudiant à John Curtin, à qui elle n'avait pas parlé depuis des années, l'appelait pour lui présenter une situation à la fois choquante et intrigante. Une Australienne du nom de Kathleen Folbig avait été condamnée à une longue peine d'emprisonnement pour les meurtres de ses 4 enfants, tous en bas âge, commis sur une période de 10 ans. L'affaire avait captivé l'opinion publique. Si beaucoup disaient abhorrer les gestes posés par Kathleen Folbig, d'autres doutaient de sa culpabilité. En raison du manque de preuves utilisées pour condamner la femme, David Wallace se demandait si les recherches de la professeure ne pourraient pas faire la lumière sur la cause exacte de la mort des enfants. Au cours des 5 années suivantes, Carola Vinuesa et une équipe internationale de scientifiques travailleront à répondre à cette question. Leurs conclusions vont bouleverser le système judiciaire australien, soulever des interrogations au sujet du traitement réservé aux mères accusées d'avoir assassiné leurs enfants et mettre en lumière le mauvais usage des preuves scientifiques. Kathleen Folbig voit le jour à Balmain, une banlieue de Sydney, en Australie, le 14 juin 1967. Dès sa plus tendre enfance, Kathleen Megan Britton connaît une existence marquée par les tragédies, l'instabilité et la folie. En décembre 1968, son père, Thomas Britton, poignarde sa mère à mort au cours d'une querelle, puis passe 15 ans derrière les barreaux avant d'être déporté vers son Angleterre natale. La jeune Kathleen se retrouve chez la sœur de sa mère, à l'ouest de Sydney. Tout espoir de vivre une enfance heureuse est anéanti. Sa tante, connue dans les dossiers de la cour comme Madame Platt, se plaint au printemps 1970 au service de protection de l'enfance que la fillette est agressive, impolie, malpropre et préoccupée par la masturbation, et que les efforts requis pour prendre soin d'elle mettent son mariage en péril. Elle dit ne plus vouloir de sa nièce. Kathleen n'a même pas 3 ans. Des médecins déterminent que l'enfant a probablement été abusé par son père. On découvre également chez elle un quotient intellectuel inhabituellement bas, en grande partie imputable à sa nature agitée et renfermée. En septembre 1970, on la place en famille d'accueil chez Deirdre et Neville Marlborough, qui habitent Newcastle, à 120 km au nord de Sydney. Au départ, Kathleen s'attache à sa nouvelle famille et fonctionne bien à l'école. Mais l'héritage de son début de vie catastrophique finira par prendre le dessus. Prise en flagrant délit de vol à l'étalage, elle abandonne l'école très jeune et entretient une relation conflictuelle avec Deirdre. À 17 ans, elle quitte la maison et emménage chez la famille d'une amie. Un an plus tard, dans une boîte de nuit de Newcastle, elle rencontre Craig Folbig, un conducteur de chariot-élévateur de 23 ans. Grand, les cheveux bruns et le sourire facile, à la fois charmant et bavard, Craig semble être le sauveur de Kathleen. Ensemble, ils pourraient fonder la famille dont elle a toujours voulu. Ils se marient en 1987. Elle n'a alors que 20 ans. Et loue un appartement à Georgetown, en banlieue de Newcastle. Kathleen se trouve un emploi de serveuse dans un restaurant indien. Issue d'une fratrie de 8 frères et sœurs, Craig désire une grosse famille et le couple attend bientôt un enfant. Enchantée, Kathleen surprotège l'enfant à naître. Craig n'a plus le droit de fumer à l'intérieur et elle-même s'alimente mieux. À la naissance de Caleb, en février 1989, la jeune femme se dit comblée. Après toutes ces années de bouleversements, elle a un mari, une maison et un bébé. Le 20 février 1989, le malheur frappe lorsque Kathleen trouve Caleb, âgé de 19 jours seulement, mort dans son berceau. Une autopsie conclura au syndrome de la mort subite du nourrisson comme cause de décès. Bien que dévastée, Kathleen ne se décourage pas et retombe bientôt enceinte. Lorsque Patrick naît en juin 1990, il subit une batterie de tests, dont un de sommeil. Les résultats s'avèrent normaux, mais Kathleen craint encore pour la vie de son fils. Et elle avait raison de s'inquiéter. Le 18 octobre, Patrick, alors âgé de 4 mois, présente un problème soudain, généralement associé à un manque d'oxygène, qui met sa vie en danger. L'événement laisse des séquelles, lésions cérébrales, déficience visuelle et convulsions, pour lesquelles Patrick sera hospitalisé à maintes reprises. Prendre soin de son bébé handicapé devient l'unique préoccupation de Kathleen. Elle pense à lui constamment et l'a toujours dans les bras. En février 1991, il meurt aussi. La cause du décès? Une asphyxie causée par l'obstruction des voies respiratoires en lien avec ses crises convulsives. Se sentant responsable de la mort de ses 2 enfants, Kathleen sombre dans une profonde dépression. Elle décide que Craig et elle ont besoin de changer de vie s'ils veulent conjurer le mauvais sort qui s'abat sur leur famille. Ils vendent leur maison et déménagent à Thornton, au nord de Newcastle. Craig devient vendeur de voitures alors que Kathleen se trouve du travail chez un détaillant de produits pour bébés, un emploi qui répond à son désir déchirant d'avoir une famille. Après la naissance de Sarah, Kathleen devient obsédée par la possibilité de la perdre. Sarah naît le 14 octobre 1992. Elle subit également de nombreux tests, lesquels ne révèlent rien d'anormal. Sarah semble se développer normalement, mais Kathleen devient obsédée par la possibilité de la perdre, ce qui met de la pression sur le couple. Un soir, Craig voit Kathleen grogner après Sarah, qui a maintenant 10 mois, alors qu'elle tente de l'endormir. Elle lui remet l'enfant en lui disant de s'en occuper. Le lendemain, le 30 août 1993, Sarah meurt. L'autopsie conclura au syndrome de la mort subite du nourrisson comme cause de décès. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette terrible malchance? À la suite de la mort de Sarah, Craig s'enfonce dans une profonde dépression. Dans l'espoir de voir la chance tourner, il s'achète une maison à Cardiff, à l'extrémité ouest de Newcastle, près de la famille de Craig. Le couple, qui commence à craquer sous la pression, se séparent à plusieurs reprises, mais ils se ressoudent chaque fois, soit en raison d'un véritable amour mutuel ou du lien créé par les drames répétés. Ils déménagent encore, cette fois à proximité de Hunter Valley, et décide d'avoir un autre enfant. Vous écoutez La condamnation d'une mère, un texte de Sarah Treleaven, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Laura naît le 7 août 1997, près de 4 ans après la mort de Sarah. Bien que ce soit aussi un bébé en santé, elle fait l'objet d'examens plus approfondis, dont une batterie de tests sanguins, métaboliques et biochimiques. Pendant 12 mois, son suivi cardio-respiratoire n'indique aucun problème avec ses fonctions cardiaques et respiratoires. Comme le premier anniversaire de Laura approche, Kathleen organise une grande fête. Elle a finalement un bébé en bonne santé et son anxiété diminue. La vie qu'elle avait désirée prend enfin forme après 3 faux départs déchirants. Le couple bat cependant encore de l'aile. Kathleen se montre une mère dévouée, mais Craig s'inquiète de ses éclats de colère. Un soir, à la fin de février 1999, il remarque la tension entre Kathleen et Laura, alors âgée de près de 18 mois. « Oh, elle m'en veut », lui dit Kathleen. « C'est probablement à cause de ce que je lui ai fait hier soir. J'ai perdu le contrôle avec elle. » Au déjeuner, le matin du 1er mars, Kathleen essaie en vain de faire manger ses céréales à Laura. Elle la sort de sa chaise haute, la dépose par terre et lui dit d'aller voir son putain de père. Lorsque Craig quitte la maison pour le travail, Laura est en train de regarder la télévision. Dans l'avant-midi, Kathleen appelle Craig pour s'excuser de s'être emportée, puis emmène Laura lui rendre visite pendant sa pause matinale. Laura s'endort dans la voiture sur le chemin du retour et Kathleen la transporte dans son lit. Laura meurt plus tard ce jour-là. Cette fois, l'autopsie n'est pas concluante, bien qu'elle révèle que Laura souffrait de myocardite, une inflammation du cœur. Dans l'après-midi du 1er mars, peu après que Laura ait déclaré le 4e enfant de la famille, mort en 10 ans, un policier va rencontrer le couple à l'hôpital. Les morts subites des enfants, apparemment en bonne santé à la naissance, suggéraient quelque chose de sinistre, n'ayant rien d'une coïncidence malheureuse aux yeux de la police. Kathleen pouvait-elle les avoir tués? Alors que les enquêteurs intensifient leurs efforts en fouillant la maison des Falbig, le couple éprouve de nouveau des difficultés. Encore sous la mire de la police, Craig et Kathleen se séparent définitivement en juin 2000. Le 19 avril 2001, Kathleen est arrêtée et accusée de 4 meurtres. Elle plaide non coupable à tous les chefs d'accusation. Le procès devant jury débute au printemps 2003 à la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney. Sur les photos prises durant le procès, Kathleen apparaît telle une somnambule, le teint pâle, les paupières lourdes. La poursuite posait un regard froid sur la mort des enfants. Kathleen Falbig aurait asphyxié chacun d'eux. Les preuves circonstancielles semblaient accablantes. Chaque enfant jouissait apparemment d'une bonne santé avant de mourir dans son propre lit. Kathleen était à la fois la dernière personne à les avoir vus vivants et celle qui les avait trouvés morts. Après la séparation définitive du couple, Craig avait trouvé les journaux intimes de sa femme et dira plus tard au jury que ce qu'il avait lu lui donnait envie de vomir. Des avocats de la couronne se sont servis de ces journaux pour alléguer que Kathleen Falbig avait tendance à stresser et à s'impatienter, ainsi qu'à perdre le contrôle avec chacun de ses enfants. On l'a accusée d'être frustrée, impatiente et même cruelle envers ses enfants. Selon les procureurs, plus de 200 inscriptions dans ses journaux démontraient qu'elle n'aimait aucun de ses enfants et qu'elle n'avait pas créé de lien avec eux. Que la maternité l'avait rendue stressée et pleine de ressentiment, au point de commettre le pire. 3 juin 1990. C'est la date où Patrick Allen David Falbig est né. J'avais des sentiments partagés ce jour-là, à savoir si j'allais réussir comme mère ou si j'allais devenir stressée comme je l'ai été la dernière fois. Caleb et Patrick me manquent souvent, seulement parce que ça change tellement ta vie et peut-être parce que je ne suis pas une personne qui aime le changement. Alors nous verrons. 9 novembre 1997. Avec Sarah, tout ce que je voulais, c'était qu'elle arrête de parler. Et un jour, elle l'a fait. 28 janvier 1998. Je me sens comme la pire mère du monde. J'ai peur que Laura me quitte maintenant comme Sarah l'a fait. Je savais que j'étais parfois colérique et cruelle envers elle, et elle est partie, avec un peu d'aide. Je ne veux plus jamais que ça se produise. Je semble réellement avoir un lien avec Laura. Ça ne peut plus se produire. J'ai honte de moi. Je ne peux pas en parler à Craig parce qu'il aurait peur de me laisser seule avec elle. Les procureurs ont fait valoir qu'une mère éplorée n'écrirait pas ces choses. Même si les résultats entourant la mort des enfants n'étaient pas concluants, on a présenté les journaux intimes comme des preuves évidentes que Kathleen Falbig était une mère inapte. N'y avait-il pas qu'un pas entre l'inaptitude et la violence? Kathleen Falbig n'était pas la première femme condamnée pour avoir tué ses enfants dans des circonstances similaires. Nombre de ces cas ont été influencés par Roy Meadow, un pédiatre britannique ayant développé une théorie reconnue comme la loi de Meadow, selon laquelle une mort subite d'enfant dans une famille constitue une tragédie. Deux morts sèment le doute, et trois sont des meurtres, à moins de la preuve du contraire. Pathologiste pédiatrique à Toronto et expert en matière de poursuites judiciaires dans des procès criminels de la maltraitance infantile, Charles Smith utilisait une approche similaire. Les deux experts avaient inversé la tradition du droit coutumier de la présomption d'innocence. Kathleen n'avait rien perdu de sa compassion et de sa décence, malgré la triste réalité qu'elle devait endurer. Bien qu'on ait depuis discrédité les deux hommes et que de nombreuses personnes qu'ils avaient contribué à faire condamner aient ensuite été innocentées, les torts causés étaient immenses. Par exemple, Sally Clark, une avocate britannique, avait été condamnée pour avoir tué ses deux fils en bas âge en 1999. Une révision ultérieure du cas a révélé que Roy Meadow avait dénaturé les preuves statistiques à son procès et qu'un pathologiste avait omis de divulguer des preuves indiquant une mort naturelle. La libération de Sally Clark en 2003 a mené à la révision de centaines de cas au Royaume-Uni et plusieurs autres mères ont ainsi vu leur condamnation annulée. Vous écoutez « La condamnation d'une mère », un texte de Sarah Treleaven, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. La présomption de culpabilité aura cependant influencé des cas similaires. Le 21 mai 2003, Kathleen Falbig est reconnue coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre, d'un chef d'accusation d'homicide involontaire et d'un chef d'accusation de coups et blessures. En octobre de la même année, elle écope d'une peine de 40 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Elle a 35 ans lorsqu'elle est incarcérée au centre de détention pour femmes Silverwater à Sydney. En appel, sa sentence sera finalement réduite à 30 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. L'arrestation de Kathleen Faulbig a galvanisé Tracy Chapman, une amie d'enfance. En suivant son procès, Tracy a acquis la certitude que Kathleen ne serait pas reconnue coupable. Peu après sa condamnation, elle a repris contact avec elle. Tracy a téléphoné aux avocats et lu toutes les transcriptions en tentant désespérément de trouver une façon de faire innocenter son amie. Les deux femmes communiquaient principalement en s'écrivant de longues lettres, dans lesquelles Kathleen décrivait son quotidien en détention. Le plus frappant, selon Tracy, était que son amie, qu'elle décrivait comme une amoureuse des animaux, avec un formidable sens de l'humour, n'avait rien perdu de sa compassion ou de sa décence, malgré la triste réalité qu'elle devait endurer. Elle possédait un profond sens moral, expliquait-elle, et je la soutenais pour empêcher le système carcéral de le lui enlever. D'autres personnes ont également commencé à mettre en doute la culpabilité de Kathleen Faulbig. Emma Conliffe, une Australienne doctorante en droit à l'Université de la Colombie-Britannique, faisait partie des premiers dissidents. Elle s'est penchée sur le cas de Kathleen dans une optique féministe, à partir d'un consensus émergent parmi certains spécialistes, à savoir que les enquêteurs et les procureurs étaient enclins à nourrir un raisonnement discriminatoire envers les femmes, particulièrement à l'égard des mères accusées d'avoir blessé ou tué leurs enfants. En examinant les dossiers du procès, Emma Conliffe fut troublée par le fait que tant de gens impliqués dans ce cas étaient persuadés de la culpabilité de Kathleen malgré l'absence de preuves d'homicide. Elle considérait aussi comme préjudiciable et trompeuse l'utilisation de ses journaux intimes. Le plaidoyer de la couronne voulait que les morts inexpliquées de 4 enfants d'une même famille, conjuguées aux écrits des journaux intimes et aux preuves de la tendance de Mme Faulbig à la frustration, suffisaient à prouver hors de tout doute raisonnable que Kathleen Faulbig avait tué chacun de ses enfants, a écrit Emma Conliffe dans l'Australian Feminist Law Journal en 2007. En 2011, une revue spécialisée a demandé à Stephen Cordner d'étudier le livre d'Emma Conliffe, Murder, Medicine and Motherhood. Médecin légiste à Melbourne, Stephen Cordner avait suivi un cas similaire à partir de 2007 dans l'État australien de Victoria. Carol Matthey, une mère âgée de 27 ans, habitant la ville de Geelong, avait été accusée du meurtre de ses 4 enfants. La couronne alléguait que chacun d'eux avait été asphyxié délibérément et que Carol Matthey montrait peu d'égard envers ses enfants qu'elle utilisait comme des pions dans sa relation avec son partenaire. Les accusations avaient finalement été abandonnées en raison des preuves insuffisantes. En examinant les conclusions d'Emma Conliffe, Stephen Cordner est frappé par les similitudes entre les deux cas et le sentiment qu'il y avait quelque chose d'injuste dans la condamnation de Kathleen Faulbig. S'adressant au centre juridique de l'Université Newcastle, qui s'occupait bénévolement du cas de Mme Faulbig, il a dit vouloir étudier la condamnation. Dans son compte-rendu de 100 pages, M. Cordner écrit que les rapports pathologiques n'apportait aucune preuve pouvant étayer la conclusion selon laquelle les enfants avaient été assassinés. Il y indique également que la poursuite s'était servie des journaux intimes de Kathleen Faulbig pour la dépeindre comme une mère frustrée, encline à s'emporter de façon incontrôlable, alors que les enfants ne présentaient aucune trace de blessure. Par exemple, sous la pression de l'asphyxie, les dents de Laura auraient dû laisser une marque à l'intérieur de sa bouche. Comment une mère à ce point violente pouvait-elle tuer ses enfants avec autant de douceur? Au fil des années, d'autres experts médicaux et judiciaires ont soulevé des doutes concernant la condamnation de Kathleen Faulbig. La campagne pour l'innocenté a pris un tournant décisif en 2018 lorsque Carola Vinuesa est entrée en scène. David Wallace, l'ancien étudiant de l'école de médecine, devenu avocat en litige commercial, avait suivi l'affaire avec un malaise croissant face au manque de preuves. Il a demandé à la professeure Vinuesa s'il était possible que le séquençage du génome complet, le processus pour déterminer le profil ADN d'un individu, pourrait faire la lumière sur la mort des enfants Faulbig. La docteur Vinuesa a accepté de se pencher sur le cas. Elle a d'abord demandé à une collègue de rendre visite à Kathleen en prison et de procéder à un prélèvement buccal. En séquençant l'ADN de la détenue, la professeure a découvert que celle-ci présentait une mutation extrêmement rare du gène CALM2-G114R associée aux arythmies et à la mort cardiaque. Kathleen Faulbig aurait-elle transmis cette mutation potentiellement mortelle à ses enfants? Pour obtenir un portrait plus complet du bagage génétique des enfants, elle a voulu également séquencer l'ADN de Craig Faulbig. Il a refusé d'en fournir un échantillon en maintenant que son ex-femme était coupable et qu'il refusait de faire partie des efforts pour l'innocenter. L'avocat de Kathleen Faulbig a présenté les résultats d'Emma Conliffe, de Stephen Cordner et de Carola Vinuesa à Mark Speakman, le procureur général de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, et, en août 2018, il a annoncé l'ouverture d'une enquête. L'année suivante, Reginald Blanche, un ancien juge en chef de la Cour fédérale, a produit un rapport de plus de 500 pages avec force détails sur la vie de Kathleen Faulbig, ainsi que sur les conclusions et les preuves présentées à son procès. Les sympathisants à sa cause se sont dit renversés par son verdict. Je n'ai trouvé aucun vice ou erreur de procédure dans le déroulement du procès qui me permettrait d'avoir un doute raisonnable quant à la faculté de Madame Faulbig, écrit Reginald Blanche. Incarcérée depuis 16 ans à ce moment-là, Kathleen Faulbig avait toujours clamé son innocence. Rien ne semblait pouvoir être fait pour la disculper. Le rapport donnait l'impression que la porte venait de se refermer, a commenté Stephen Cordner. Vous écoutez La condamnation d'une mère, un texte de Sarah Treleaven, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Poursuivant ses recherches, la docteur Carola Vinuesa prend contact avec le généticien de renommée mondiale, Peter Schwartz, à l'Institut Oxologique de Milan. Par une remarquable coïncidence, il vient d'écrire sur un cas similaire où deux enfants de la même fratrie présentaient la même mutation que Kathleen Faulbig sur l'un des autres gènes CALM. L'un des enfants était mort alors que l'autre avait fait un arrêt cardiaque, mais y avait survécu. Peter Schwartz avait alors fait appel à des collègues au Danemark. Mette Nygaard, professeur de biomédecine à l'université Aarhus, et Michael Toft Overgaard, professeur de biosciences à l'université Aalborg, avaient fait une découverte semblable 7 ans auparavant. Des membres d'une famille suédoise avec des antécédents de mort cardiaque subite présentaient une mutation extrêmement rare sur un autre gène du groupe CALM associé à une mort subite dans l'enfance. Les deux cas soutenaient la théorie voulant que la mort des enfants Faulbig n'était pas nécessairement le résultat d'actes criminels. La docteure Vinuesa comprend que les enquêteurs ont conclu au meurtre des enfants Faulbig parce que leurs chances de mourir de causes naturelles étaient infinitésimales. Mais lorsque ces décès sont reliés à un facteur génétique, la donne change considérablement. La probabilité est de 1 chance sur 16 plutôt que de 1 sur 73 millions, selon elle. Elle se met alors à réunir l'ADN de Caleb, Patrick, Sarah et Laura en allant chercher des échantillons datant de dizaines d'années prélevés à la naissance des enfants ou pendant leur autopsie. Ces analyses révèlent que la mutation CALM2 avait été transmise à Sarah et à Laura. Caleb et Patrick, pour leur part, partageaient une autre mutation rare sur le gène BSN, relié celui-là aux crises d'épilepsie mortelle. La rumeur concernant des preuves de plus en plus nombreuses que les enfants Faulbig étaient morts de causes naturelles se répand. Quelques 90 éminents scientifiques, dont des lauréats du prix Nobel et le président de l'Académie des sciences de l'Australie, signent en 2021 une pétition pour ouvrir une nouvelle enquête sur la condamnation de Kathleen Faulbig. Les médias dépeignaient maintenant son incarcération comme une terrible erreur judiciaire. De son côté, Peter Yates, un ancien banquier d'affaires ayant siégé au sein des conseils d'administration des plus importantes institutions du pays, entend la docteure Vinuesa parler de ce cas. Il se convertit à cette cause et devient ce qu'il appelle le président de facto de l'équipe Faulbig. Faisant pression sur les politiciens et engageant une firme de relations publiques pour changer la perception du public concernant Kathleen, il l'a fait passer de tueuse en série à mère endeuillée, condamnée injustement. La couverture médiatique atteint des sommets. Kathleen Faulbig avait déjà fait les manchettes à titre de pire tueuse en série d'Australie. Maintenant, son incarcération était dépeinte comme une terrible erreur judiciaire. En mai 2022, en réaction à l'énorme pression du public et de la communauté scientifique, la gouverneure de la Nouvelle-Galles du Sud, Margaret Beasley, ordonne la tenue d'une seconde enquête sur la recommandation du procureur général Michael Daly. Un an plus tard, le responsable de l'enquête, le juge à la retraite Thomas Bathurst, conclut qu'il existe un doute raisonnable quant à la culpabilité de Kathleen Faulbig. La gouverneure lui accorde un pardon total et ordonne qu'elle soit libérée. Elle sort de prison le 5 juin 2023, âgée de 55 ans. Elle aura passé 20 ans en détention. Elle vit sa première soirée de liberté dans la ferme de Tracy Chapman, à manger de la pizza et à boire de la liqueur de café Kahlua et du Coca-Cola. « Nous n'avons pas tellement parlé », explique Tracy. Il y avait une sorte de profondeur dans le silence. Pendant toutes ces années, leur amitié avait été empreinte d'un seul et même but, faire sortir Kathleen de prison. Maintenant, elle pouvait enfin se reposer. En novembre 2023, le rapport final de la seconde enquête recommande l'annulation des condamnations de Kathleen Faulberg. Et le mois suivant, la Cour d'appel en matière pénale de la Nouvelle-Galles du Sud les a formellement annulées. Pour beaucoup de sympathisants, sa condamnation injustifiée a soulevé des questions sur le nombre d'autres femmes innocentes qui croupissent peut-être en prison en raison de données scientifiques erronées et de la mauvaise interprétation de leurs gestes. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, selon Stephen Cordner, qui a récemment publié le livre « Wrongful Convictions in Australia, Addressing Issues in the Criminal Justice System ». Des experts judiciaires ont demandé au gouvernement australien de nommer un comité indépendant pour étudier les condamnations injustifiées. Essuyant des larmes, Kathleen Faulberg s'est adressée aux médias après l'annulation de ses condamnations. « J'espère que personne d'autre n'aura jamais à souffrir comme j'ai souffert. Mes enfants sont ici avec moi aujourd'hui et je les garderai dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. » C'était La condamnation d'une mère, un texte de Sarah Treleaven, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest.
Les plus beaux paysages du Botswana. Un texte d'Olivier Esteban, paru le 23 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. Plus haut que l'Afrique du Sud, plus loin que la Tanzanie ou le Kenya, le Botswana, immense contrée stable et prospère, regorge de trésors naturels. Du delta du mythique Okavango aux portions les plus arides du désert du Kalahari, en passant par les marais et pans peuplés d'animaux plus sauvages les uns que les autres, c'est toute une Afrique que vous allez découvrir. Delta de l'Okavango. Troisième fleuve le plus long d'Afrique australe, l'Okavango serpente sur 1600 kilomètres depuis le centre de l'Angola jusqu'au nord du Botswana. C'est peu après la frontière namibienne que son cours en termine avec ses innombrables méandres. C'est ici, au fil d'un delta de plus de 15 000 kilomètres carrés, que son parcours s'achève et que vient pour vous le temps d'explorer ses labyrinthiques marécages. Un safari à travers la Moremi Game Reserve, le Kwearia, ainsi qu'une multitude de concessions aussi bien dans le Upper Delta que le Lower Delta, vous dévoileront parmi les plus beaux paysages du Botswana. On dit de l'Okavango qu'il est le fleuve qui ne trouve jamais la mer. C'est en effet sa stricte définition hydrologique qui fait de lui un fleuve endoréique. Un particularisme géologique qui fait le bonheur des animaux sauvages qui peuplent cette région abondamment dotée en eau. Troupeaux d'éléphants, centaines d'espèces d'oiseaux, léopards, chiens sauvages. Le delta grouille de faune. Par la terre ou sur les eaux, vous partez observer cette vie miraculeuse dans un décor unique au monde, où une immense zone humide vient à la rencontre du désert du Kalahari. Unique, on vous dit. Le fleuve Chobe, nord du parc national de Chobe. En restant au nord du pays, mais en mettant le cap à l'est, on atteint la triple frontière avec la Zambie, le Zimbabwe et la Namibie. Avant de ne faire plus qu'un avec les eaux du Zambèze, le fleuve Chobe donne à la bordure nord-est du Botswana son tracé sinueux aux multiples lacets. L'ensemble de la région est constitué en parc national depuis 1967, ce qui en fait le plus vieux du pays. Ces près de 12 000 km carrés dévoilent des paysages grandioses, qui voient les eaux du fleuve serpenter lentement et se frayer un chemin dans une plaine à la végétation éparse. Ses rives et son tracé fluctuent selon les caprices des eaux. Et c'est bien connu, partout où il y a de l'eau, il y a de la vie. Ainsi, la faune peuplant les bords du fleuve Chobe, appelée Kwando en amont, est abondante et donc largement prisée des amateurs de photographie animale. Éléphants principalement, mais aussi zèbres, buffles, hippopotames, crocodiles, hyènes tachetées ou licaons y ont élu domicile. Ne reste plus qu'à leur rendre une petite visite. Pan de Magadikadi et Naxi. Direction le sud du parc national de Chobe. Mais avant toute chose, on respire profondément et on prend tout le temps nécessaire pour tenter de prononcer les mots Magadikabi et Nexé. Pas évident. Au nord-est du bassin du Kalahari, déjà plus facile à prononcer, s'étendait il y a plus de 10 000 ans un lac du nom de Makadikkadi. Le temps nécessaire à la nature pour façonner un paysage de cuvettes arides couvertes d'herbes rases qu'on appelle pins. Les pins de Makadikkadi et Nexé, bien que distincts par leur taille, le premier est immensément plus grand que le second, font néanmoins partie d'un vaste écosystème naturel, théâtre de l'une des dernières grandes migrations animales du monde, notamment de zèbres. Votre recherche des plus beaux paysages du Botswana prend tout son sens ici, quand s'étend devant vous l'immensité d'un désert de sel aux multiples facettes. Car, loin de se contenter d'une plaine monotone, les pins montrent des baobabs millénaires, des buissons touffus d'où émergent les cornes des girafes, des mares salées où pataugent les troupeaux d'éléphants ou encore des flamants roses, venus se reproduire en toute sécurité. Marais du Linianti. Entre le Chobe National Park et la langue de terre namibienne qui vient s'étirer pour atteindre le carrefour de Kanzungula, le Botswana dévoile une longue frontière fluviale marquée par ce fleuve que l'on appelle d'abord Kwando, puis Linianti et enfin Chobe. Zigzaguant à son aise au nord du pays, il sépare ce dernier de la Namibie en une vaste région de marais éponyme. Vous trouverez ici un air de ressemblance avec le delta de l'Okavango, avec ses bras de rivière qui se perdent en marais, chenaux et lagons. Un ensemble bordé de forêts d'une fort belle densité verticale. Les conditions parfaites pour accueillir des animaux sauvages par milliers. Sans tous les citer ici, gageons que vous y observerez pêle-mêle hippopotames, impalas, koudous, ibis, galagos et autres cervales. Une belle diversité à poils, à plumes, poids lourds et poids plumes. Le triangle des merveilles, comme on le surnomme, pour ses traits géométriques comme pour la richesse de son panthéon animalier, ne fait que parfaitement porter son nom. Vous écoutez « Les plus beaux paysages du Botswana », un texte d'Olivier Esteban, paru le 23 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. Savoûté Channel, sud du parc national de Chobe. Savouté, ou Savouti, c'est selon, évoque à la fois une rivière mystérieuse, le canal de Savouti, dont les eaux proviennent de la Linianti et la région marécageuse qui en découle. Visiter les environs ne va pas forcément de soi, tant les eaux du canal sont d'une liberté insondable. Géologues et scientifiques se sont penchés sur ces caprices depuis de nombreuses années sans qu'aucune conclusion ne fasse vraiment consensus à part d'imaginer que l'activité tectonique en amont soit la cause de son on-off permanent et sans aucun signe avant-coureur. Pour n'évoquer que les 40 dernières années, les eaux se sont taries en 1982 avant de réapparaître en 2008 et de vivre depuis des moments épisodiques de sécheresse. Mais quand le lit du canal fait le plein, quel spectacle! Quel lieu! Une langue verdoyante le borde alors de part en part pour accueillir gnous, zèbres, buffles, guépards, hyènes, chiens sauvages, mais aussi lions et éléphants, grands rivaux de ses rives. Lieu de migration de milliers d'oiseaux, la région sud du parc national de Tchobé sera une étape clé de votre voyage au Botswana. Central Kalahari Reserve. Évoquer les plus beaux paysages du Botswana sans parler du Kalahari n'a que peu de sens. Ne serait-ce que pour l'importance foncière du désert dans l'ensemble du pays. Le désert du Kalahari couvre en effet plus de 70% du Botswana. Concentrons-nous ici sur une partie de ce désert, la Central Kalahari Reserve. Ses dimensions ne sont pas moins impressionnantes, car avec 52 000 km², la réserve est plus vaste que le Costa Rica tout entier. Il y a tant à voir dans ce désert, si bien qu'il n'est pas tout à fait un désert avec ses plaines herbeuses, ses pans hérités de lacs asséchés, ses baobabs millénaires, mais n'allez pas croire que les conditions de vie n'y sont pas difficiles. Un bushman vous ferait changer d'avis. Quelques villages y sont encore les gardiens d'une culture humaine multiséculaire tournée entièrement vers le rapport de l'homme à son environnement. Les animaux, quant à eux, attendent la fin de la saison sèche avec une placide impatience. Oryx, springbok, bubal, gazelle, hyène, brune, toutes et tous sont à la merci du lion du Kalahari, dont la crinière est plus noire que celle de ses congénères. Tsodilo Hills. Des troupeaux de girafes déployant leur cou longiligne, des rhinocéros imposant leur masse surmontée d'une double et puissante corne, des scènes de chasse traditionnelles, des rituels mystérieux, des danses et autres symboles tout aussi impénétrables. Vous voilà plongé dans le quotidien des Tsodilo Hills, il y a près de 100 000 ans. Ce patrimoine rupestre, tout proche de l'Okavango Panhandle, avant que le delta ne disperse le fleuve, est le fruit du développement humain et artistique local au fil des siècles. Plus de 4500 peintures sont rassemblées sur une surface de seulement 10 km². Une concentration unique au monde qui raconte l'évolution de l'homme et de son environnement dans la région de génération en génération. Son classement au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 2001 en dit autant sur son importance internationale que sur le caractère toujours sacré qu'il revêt pour les populations héritières de cet art et qui perpétue l'esprit ancestral jusqu'à nos jours. Au-delà de ce legs culturel, les collines de Tsodilo fascinent aussi par leur esthétisme rocheux et aride, fait de trous d'eau et de monticules. Tuli Block. Le Tuli Block est certainement l'un des secrets les mieux gardés du Botswana. Hors des sentiers battus, hors des sentiers tout court, la région fait tout pour se faire oublier, exilée qu'elle est aux confins orientaux du pays. Une fine langue de terre coincée entre le Zimbabwe au nord et l'Afrique du Sud au sud. Un corridor constitué d'une grande variété de paysages. grimper le plus haut possible pour admirer le point de vue. Des lits de rivière Tari, des canyons et les collines de Tsavapong, où pousse parfois un immense baobab ou encore le mur de Salomon formé par l'érosion dans la rivière Motlutz. Le Tuli Block abrite également une faune abondante d'éléphants, de léopards, de hyènes et de babouins. En matière de fréquentation touristique, c'est presque un autre Botswana qui vous attend ici. Ne tardez pas. C'était « Les plus beaux paysages du Botswana », un texte d'Olivier Esteban, paru le 23 avril 2024 dans « Voyageurs du monde ».
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est un texte d'Alexandre Sirois, paru le 1er mars 2024 dans la presse. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Elle est fantastique, cette formule de Gilles Vigneault. Le problème, c'est qu'elle est de moins en moins vraie. À mes yeux, elle résume depuis longtemps la véritable nature du Québec. Notre hiver nous définit en tant que province, en tant que peuple. Qu'on le veuille ou non, c'est un marqueur identitaire fort. Mais le sera-t-il encore? On a battu des records de chaleur cette semaine. Et en dépit d'une baisse soudaine du mercure, après ce redoux hallucinant, la température va grimper de nouveau. Mon premier réflexe a été de donner un coup de fil à Alain Bourque, le directeur général d'Ouranos, le consortium québécois sur l'adaptation au changement climatique, pour en discuter. Il confirme que l'hiver québécois est en train de subir une transformation fondamentale. Mais il précise que la chaleur des derniers jours ne l'a pas surpris le moins du monde. Tout ce qu'on voit là, et je ne dis pas que la période de redoux est exclusivement due au changement climatique, est tout à fait cohérent avec le changement du climat, selon Alain Bourque. Justement, je lui ai demandé jusqu'à quel point le phénomène climatique El Niño joue un rôle dans la situation actuelle. Il est probable qu'il y contribue cette année, confirme l'expert. Mais dans un monde où l'on s'attend de toute façon à un réchauffement soutenu du climat, ce qu'El Niño vient faire, c'est qu'il nous donne une sorte d'aperçu de ce que va être un hiver normal dans quelques années ou, au maximum, deux décennies. Au Québec. Et oui, ça va venir changer notre identité, reconnaît Alain Bourque. L'hiver à Montréal, par exemple, ressemblera davantage à celui de Toronto, et l'impact de la hausse des températures se fera forcément ressentir sur la pratique de divers sports, patins, ski, etc., et autres activités hivernales, pêche sur glace, motoneige, etc., dans la métropole et dans plusieurs régions du Québec. Mais ça ne s'arrête pas là. Même si les températures sont plus clémentes, on ne devrait surtout pas se réjouir, prévient Alain Bourque, car l'hiver québécois est un peu l'équivalent du canari dans la mine. Il nous alerte quant à la monstruosité de ce qui s'en vient. Plus précisément, il préfigure les transformations du climat qui engendrent des transformations de notre environnement naturel et des écosystèmes qui provoquent une hausse des températures de l'eau tant dans les lacs et les rivières que dans les océans. J'ai par ailleurs cherché à savoir quel impact peut avoir cette transformation dans un domaine très spécifique, mais également lié à notre identité, l'industrie du sirop d'érable. Il est trop tôt pour estimer qu'il y a un lien entre les changements climatiques d'un côté et, de l'autre, qualité et quantité de production de sirop d'érable. C'est ce qu'explique le porte-parole des producteurs et productrices acéricoles du Québec, Joël Vaudeville, qui m'a offert un bon résumé de la situation qui prévaut dans ce secteur. Ça reste sur notre écran radar et de très bons spécialistes travaillent là-dessus, précise-t-il. Mais les recherches ne démontrent pas encore que les changements climatiques vont faire diminuer le nombre de jours où il y a gel et dégel. Cette variation de température entre la nuit, gel, et le jour, dégel, est cruciale pour la production du sirop. Pour l'instant, ce qui inquiète le plus l'industrie de l'érable, ce sont deux autres impacts du dérèglement du climat. les catastrophes naturelles, en particulier les vents violents et le verglas, et les insectes ravageurs qui trouvent ici des conditions plus favorables qu'autrefois. Les défis à relever en ce qui concerne la transformation de nos hivers sont nombreux tant à court qu'à long terme, reconnaît-on à la ville de Montréal. Dans le court terme, comment on réagit à des phénomènes comme une pluie suivie d'un gel et d'une température de moins 15 degrés centigrades? C'était déjà arrivé, mais maintenant ça arrive plus souvent, explique Sidney Ribault, directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience. On a vu des veilles de verglas et de grésil qui nous tiennent sur un pied d'alerte parce que c'est très difficile de garder le contrôle de l'entretien des trottoirs dans ces périodes-là, ajoute Marie-Andrée Mauger, membre du comité exécutif responsable de la transition écologique et de l'environnement. Parmi les défis à long terme, comment prévoir ce que Montréal devra changer dans son approche pour faire face à ce que les hivers de l'avenir nous réservent? Montréal va ressembler davantage à Toronto et à Philadelphie dans 10, 20 ou 30 ans. Ces villes-là ne sont pas équipées comme nous le sommes pour s'occuper d'une tempête de neige, me fait remarquer Sidney Ribault. Est-ce qu'on va s'équiper autant pour faire face à des événements qui vont avoir lieu beaucoup moins souvent? Quant à l'idée que l'hiver nous définit, ils laissent tous les deux entendre que des changements importants sont à prévoir. Je vous rejoins en disant que l'hiver fait partie de l'identité montréalaise, dit M. Ribault. Je suis quelqu'un de très sportif. J'allais jouer au hockey sur les patinoires extérieures naturelles. Je faisais du ski de fond. Depuis quelques années, ça devient de plus en plus difficile de pratiquer ces activités-là. Et cette année, ça a été presque impossible. On travaille à adapter la ville et l'offre de loisirs de la ville, renchérit Marie-Andrée Mauger. Elle reconnaît toutefois que, d'un point de vue personnel, il y a comme un deuil à faire en constatant que certains traits distinctifs de l'hiver dans la métropole sont en voie de disparition. Le statu quo n'est pas possible, déclare l'élu. Et je trouve que la réalité qu'on vit cet hiver nous force à accepter la transition dans laquelle on est plongé. J'espère que ça va nous amener à prendre conscience des changements climatiques et de ce qu'on a besoin de faire collectivement. C'était « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est… » un texte d'Alexandre Sirois, paru le 1er mars 2024 dans la presse.